rencontre cette semaine avec un duo vaudois qui s'inspire des grands noms du rock des 90s. Ils s'appellent Imposteur, un guitariste, un chanteur et un batteur qui aiment le son brut. Ils se confient au micro de Steve.
Dans le grand cycle des modes, il fallait bien que la musique des 90s revienne en force. Mais si bon nombre d'artistes d'aujourd'hui réveillent la dance et la pop d'antan, d'autres préfèrent ressusciter les guitares rugueuses de l'époque. C'est le cas d'Imposteurs, duo vaudois qui a sorti Crimson, son premier EP, dégoulinant des ambiances rock à la Red Hot Chili Peppers, Radiohead et Soundgarden. Ils sont nos invités, Quentin, batteur, et Orestis, guitariste et chanteur. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Désolé de vous apposer des références musicales d'entrée de jeu, mais bon, quand on va taquiner toute une époque, difficile d'éviter les parallèles avec les légendes. Comment vous le vivez, ça, le fait qu'on vous replace et on vous compare avec plein d'autres groupes?
Je pense qu'il y a quelque chose d'à la fois valorisant et puis à la fois peut-être un peu répétitif, où on a aussi envie d'amener un peu quelque chose de nouveau dans le paysage.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette période? Qu'est-ce qui vous attire?
Ce qui nous attire, je pense, et nous intéresse, c'est beaucoup le travail instrumental aussi acoustique, on pourrait dire, d'une certaine façon live, d'un échange entre une guitare et une batterie, et aussi les mélodies et les voix qui peuvent aller avec.
C'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, on a plein de combos, de duos, batterie, soit guitare ou basse. Je pense aux Black Keys, il y a eu les White Stripes, puis il y en a d'autres. Mais vous êtes aussi allé chercher les sonorités de cette époque des 90s. Vous n'auriez pas pu faire des choses plus modernes et puis faire comme les autres?
Oui, il y a toute une mouvance de duos qu'on a pu voir dans les années, on va dire, 2000 et à partir de là. Comme tu dis, les White Stripes, les Black Keys. On va dire que c'est des groupes qui ont une visée a priori minimaliste et ça fait partie de leur postulat et de leur proposition. Et puis nous, on s'est simplement rendu compte qu'en se rencontrant musicalement à deux, ça marchait déjà bien. Après ça, on s'est juste dit on va continuer à deux, mais on aimerait quand même que par moment ça pète. Donc on aimerait quand même ramener une basse dans le décor. Sans forcément inviter une troisième personne.
Après, faire du rock progressif à deux, c'est quand même ambitieux, on est d'accord?
Oui, ça peut être peut-être... c'est peut-être un peu grandiloquent comme ça, mais en même temps, voilà, c'est un challenge qu'on se fixe. C'est en même temps aussi des contraintes, le duo qui aide à la créativité. On travaille avec des boucles, en tout cas pour la guitare, et des boucles sur lesquelles je peux construire après des choses en improvisation ou semi-improvisation. Et des fois, ça facilite aussi un peu le travail, on va dire, créatif.
Et puis, petite subtilité, sur le troisième morceau particulièrement, il y a aussi un passage assez jazzy. C'est parce que vous êtes les deux diplômés de l'EJMA qu'il fallait deux, trois harmonies plus complexes, c'est ça?
Il y a une influence de jazz, clairement. C'est avec Orestis qu'on a commencé à jouer, effectivement. Moi, je traînais pas mal à l'EJMA dans le jazz et le funk. Et puis, bon, je pense qu'il en a aussi vu pas mal. Et lui, il avait plutôt un background, je pense, qui était plus rock et metal aussi. Et notre bridge, c'est là qu'il s'est trouvé, un peu aussi. Et effectivement, autant dans les morceaux qu'on écoutait ensemble en allant aux répètes ou autre chose, il y avait du jazz qui se baladait, du funk, et puis des côtés aussi bossa, peut-être. Et du coup, ça a toujours été là. On a des morceaux qui tournent aussi beaucoup autour de ça. Même pour partir après sur des tendances beaucoup plus rock, même post-rock ou psyché, mais on aime bien avoir ou retourner à des essences jazz aussi.
Enfin, on va parler de la pièce magistrale de cette EP, c'est le quatrième morceau, dernier morceau également, Plastic Blues, 11 minutes de rock progressif en 3 actes. Du coup, je me suis demandé si le titre de l'EP Crimson faisait référence aux légendes du post-rock King Crimson. Est-ce que c'est le cas?
Ça peut être un groupe qu'on a déjà écouté les deux. Et moi, c'est vrai que depuis la sortie de l'EP, je me suis plus penché encore sur King Crimson, enfin leur fameux album des années 69, je crois. Tu sais, avec le bonhomme qui grimace. Mais en fait, à la base, c'était simplement un extrait. Crimson, ça fait partie d'un extrait de texte d'une de nos chansons, de Trickle Down. Et il y avait le mot Crimson Foam qui était sorti. Et je sais pas, moi j'avais proposé, on avait tourné autour du mot Crimson après, en ayant en tête ce vert qui était comme ça assez esthétique. Et par après, on a construit d'autres types de sens.
C'est vrai que King Crimson, c'est clairement un de ces groupes qu'on a aussi, digué dans la, toujours en allant au répète des échanges. Et c'est clair que dans, en tout cas pour ma part, dans les musiques de 12 minutes qui sont magistrales et que j'adorerais toujours écouter, Starless de King Crimson sera toujours là. Et puis il a été aussi une influence peut-être pour d'autres morceaux. Donc on aime bien, je pense aussi que qu'on nous ramène à ce groupe-là, ou pas qu'on nous ramène, mais qu'on ramène le titre de l'EP à ce groupe-là, parce que c'est clairement, en tout cas pour ma part, une inspiration dans la musique qu'on fait.
Quentin Orestis, on va marquer une première pause, écouter un premier extrait donc, de cette EP, c'est le premier titre, on en parlait, Trickle Down, on se retrouve après pour la suite de l'interview. Trickle Down, le rock 90s des Vaudois Imposters en invité dans AOC, morceau issu du premier EP du duo baptisé Crimson, sorti chez Table Basse Records au printemps. Orestis et Quentin, vous avez enregistré ce disque au temple du rock 90s de Suisse romande, à la Fonderie à Fribourg, avec le maître forgeron Sacha Ruffieux. Comment c'était ?
C'était une expérience très intéressante et qu'on a beaucoup appréciée, autant dans l'accueil que dans l'endroit. Et aussi dans le fond de rêve qu'on avait depuis longtemps d'enregistrer quelque chose. Après 10 ans qu'on joue ensemble, on avait finalement commencé à cristalliser des choses. Et du coup, de se retrouver là-bas, c'était vraiment chouette. Autant dans l'endroit que la personne, on a beaucoup apprécié échanger avec Sacha. Et ouais, je pense que ça restera... ouais, on va s'en souvenir.
Ouais, Sacha, c'est une personnalité qui m'est très à l'aise. Avec qui on pouvait avoir tout à fait des moments informels, de la déconne. On a un humour assez, on va dire, partagé, un peu autour des gamineries. Donc c'était super à ce niveau-là. Et cette ambiance fait qu'après, les enregistrements sont plus apaisés et puis où on peut délivrer une performance que je pense un peu plus fluide.
Comme vous dites... Une personnalité, quelqu'un aussi qui a du métier et puis des connaissances justement sur ce rock des 90s. Est-ce qu'en termes de son, alors surtout au niveau des guitares, parce que lui, ben, c'est un guitariste patenté, est-ce qu'au niveau des guitares, il y a eu des propositions qui sont venues de sa part sur des choses qui sont arrivées ensuite sur l'EP ?
Alors, moi j'avais déjà eu une expérience avec Sacha Ruffieux à la Fonderie il y a une dizaine d'années où j'avais enregistré des bouts de batterie pour John Deere. Donc un groupe aussi de Suisse romande. Et là j'avais trouvé, enfin c'est vraiment du blues rock, donc je pense que c'est d'autant plus la patte de Sacha. Et il avait une direction artistique beaucoup plus, on va dire, présente et manifeste. Maintenant chez nous, je pense qu'il voulait simplement qu'on fasse notre truc. Et puis en tout cas sur le plan composition, il n'a pas nécessairement fait de proposition. Ce qui est vrai, c'est qu'on est arrivé avec un produit déjà assez fini et complet. Et sur la question du traitement du son, on lui a fait, nous, assez confiance. Et puis, ça a bien marché. On a doublé certaines guitares. Mais il était très dans l'écoute et puis à nous laisser aussi venir à lui avec des idées. Pas forcément interventionniste comme j'aurais pu connaître dans cette expérience il y a 10 ans.
On va parler images, messieurs. Alors, pour l'heure, pas de clip. Ce qui n'empêche pas d'avoir demandé un coup de main pour le visuel de la pochette du disque. C'est une illustration de Dimitri Prokofiev, illustrateur des Bords du Léman. On y voit un visage dans un style cubique qui ferait penser un petit peu à Kim Crimson, l'album iconique, mais on ne va pas y revenir puisque visiblement, ce n'était pas forcément non plus ça. Et il y a des coches gravées partout, tel un prisonnier qui compte les jours. Quelle était l'idée derrière cette pochette ?
En réalité, Dimitri, je l'ai connu il y a quelques temps à travers un cousin. Et puis, j'ai toujours apprécié ce qu'il faisait. Et quand on cherchait une illustration avec Orestis, on a discuté. Et il était aussi intéressé et il appréciait pas mal les choses que Dimitri faisait. Et finalement, on a utilisé une illustration qu'il a fait longtemps, qui nous parlait. Les coches sur la pochette, effectivement, nous, on les a prises comme un élément d'illustration, mais en réalité, elles reflètent pas mal de choses, peut-être aussi. Autant les années qu'on a passées avant de sortir quelque chose, mais aussi peut-être parce qu'on ne fait pas toujours du 4-4. Et puis, du coup, ça nous... Voilà, compter jusqu'à 5, c'est cool aussi. Et en même temps... Effectivement, cette tête torturée et d'autres choses mettaient bien en avant, selon nous, le travail qu'on avait fait au niveau musical, oui. Mais j'avoue que ce n'est pas une commande précise par rapport à ça.
La suite pour vous, qu'est-ce que c'est actuellement? L'EP est sorti. Tu parlais, Quentin, de cet amour de jouer ensemble, de composer ensemble. J'imagine que vous y êtes toujours et que vous réfléchissez déjà à la suite, ou alors est-ce que...
Je vais parler pour mon point de vue en tout cas. Effectivement, actuellement, on est beaucoup dans la sortie de single avec des petites vidéos, essayer de teaser en permanence les gens pour les garder proches de nous. Et effectivement, même par rapport à ta question avant, nous on est plutôt dans la composition et on sait que maintenant on commence à avoir pas mal de morceaux qui sont prêts. Et même si on devrait préparer nos concerts, on a plutôt tendance, encore Orestis, il me disait à la dernière répète, en fait on jam, ça te va, ou tu préférais qu'on continue à bosser des choses pour les concerts? Et puis j'ai dit non, mais on continue à jammer, à trouver des choses, c'est chouette. Et du coup, ce format d'album, c'est une chose auquel on a envie d'arriver, je dirais, clairement. Et c'est clairement ce qu'on vise, plus que des sorties succinctes d'éléments coupés. L'EP 4 titres, c'était d'être sûr de déjà se focaliser sur 4. Mais on aimerait bien, je pense, sortir un album. On verra quand ça se fera. Mais en tout cas, il y a la matière qui est quasiment là.
Donc Imposters, vous êtes vraiment dans les 90s?
Je dirais que on est des enfants des 90s, donc on a indéniablement des références de ces années-là. Je suis content d'avoir entendu aujourd'hui, en début d'émission, mentionner Radiohead. Parce que c'est vrai que c'est une tournure qu'on est en train de prendre dans nos dernières compositions, d'aller vers quelque chose d'un peu plus progressif à l'image de Plastic Blues. Et pas toujours avec des gros riffs, pas toujours avec des grosses guitares, des gros breaks. Donc on est un peu. Moi je suis en train d'un petit peu plus explorer mon pédalier avec des effets, différentes choses. Donc après voilà, pour continuer sur Radiohead, c'est un groupe qui a traversé plein d'époques et qui, je trouve, est toujours relevant, comme disent les anglophones aujourd'hui. Donc moi je nous vois bien dans un truc de satisfaire à la fois les 30, 40, 50 nerfs qui étaient bien là dans les 90s, 2000, tout en proposant une forme de continuité avec ce qui s'écoute plus aujourd'hui.
Et est-ce qu'à l'image de Thom Yorke ou Johnny Greenwood, vous allez également partir du côté électronique de la force et des claviers?
Nous, ce qui nous limite beaucoup, c'est qu'on joue live. Des fois, on a eu des morceaux où, à côté de la batterie, j'avais un petit clavier pour faire des petits sons, où on essaie d'avoir des samples, voilà, ou un pad pour essayer d'avoir de la musique un peu plus électronique derrière. Mais au final, on se retrouve beaucoup dans le son qu'on arrive à produire de manière plus organique, je dirais. C'est vrai que c'est plutôt Orestis avec son pedalboard actuellement qui expérimente des sons un peu plus électroniques, mais qui proviennent toujours de sa guitare. Et j'avoue que je suis aussi à la recherche de... On est toujours à la recherche d'autres sons et de choses un peu plus actuelles. Mais même si toute la technologie existe aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'associe plus au live.
Quentin Orestis, merci beaucoup.
Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Yes, merci beaucoup.
C'était Imposters, duo vaudois, qui a sorti un premier EP suant des ambiances rock des 90s, baptisé Crimson, sur un nouveau morceau.